La haine en ligne, sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours.
La violence et l'insulte est devenue la norme dans les commentaires.
C'est des injures, c'est des menaces.
Donc là, nous, on est le filtre, en fait, on absorbe tout ça.
Les menaces de mort, ça surprend toujours.
On sait pas trop, en fait, si c'est juste quelqu'un qui s'amuse ou quelqu'un qui va passer à l'acte.
Le réseau social où c'est le plus bordel, c'est Facebook.
Instagram.
C'est Twitter, quoi. Enfin, ça tire à balles réelles sur Twitter.
On les appelle des community managers. Ils sont les préposés aux réseaux sociaux de 20 minutes, du Monde, de Bouscapé, de Libération, de Topito, de Street Press, de La Voix du Nord, de L'Équipe et de Combini. Jour et nuit, week-end compris, ils ont l'œil sur la déferlante d'insultes, de moqueries, voire parfois de menaces qui déferlent sous certaines vidéos ou sous certains articles. Aujourd'hui, ensemble, ils alertent sur les effets bien réels du défouloir virtuel. Des témoins laminés par leur exposition médiatique, sans défense face à de telles vagues, des journalistes minés par une telle responsabilité. Alors, faut-il aller jusqu'à s'auto-censurer pour se protéger et pour protéger ses témoins? Quels sont les sujets ou les profils qui suscitent le plus de virulence en ligne? Que fait la police, comme on dit? Que font les GAFA, comme on dit aussi? Toutes les générations et tous les réseaux sociaux sont-ils également concernés? Tous les médias, vous le savez, cherchent à faire du clic en ligne. Tous les médias cherchent à faire du bruit. Alors, à qui la faute?
L'instant M. Sonia De Villers. Sur France Inter.
Et avant d'ouvrir ensemble ce dossier épineux, je voudrais remercier chaleureusement toute mon équipe, Anne-Cécile Perrin, ma réalisatrice, Fred Milano qui la remplace aujourd'hui, Redouane Tella, notre programmateur et rédacteur en chef, Sana Rezagbara qui l'aide et Rémi Sestiaga qui est à la technique. Bonjour à tous les deux, Marie Misset.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la rédaction de Combini, un média très vaste, très puissant sur les réseaux sociaux et très jeune. Quelques chiffres juste pour qualifier Combini.
2021, c'est 2,1 milliards de vidéos vues sur tous les réseaux confondus. Et pour rentrer directement dans le sujet, c'est aussi 300 000 commentaires par mois, dont 20 000 qui sont modérés.
Bien, alors à vos côtés Olivier Lafargue, bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous êtes en charge de TikTok et de Snapchat, c'est-à-dire des réseaux sociaux extrêmement jeunes, pour le journal Le Monde, qui l'est moins. Et vous nous raconterez justement comment vous gérez ce grand écart entre un quotidien national qu'on dit de référence et la façon dont il se mue et dont il se meut sur des réseaux sociaux extrêmement jeunes. Alors, le jeu du vendredi, certains d'entre vous s'y préparent depuis déjà un quart d'heure. Vous avez déjà entré l'adresse l'instant M tout attaché à radiofrance.com. Il ne vous manque plus que la réponse et hop, un clink. Alors, je vous lis le message le plus adorable jamais arrivé sur cette boîte. C'est l'une des trois gagnantes de la semaine dernière. Elle s'appelle Mathilde. Il y a Nicolas aussi et Cédric qui ont gagné la semaine dernière. Mais Mathilde, elle n'en est pas revenue d'avoir gagné la semaine dernière. Elle nous dit « Merci beaucoup, vous savez, je ne pensais jamais gagner parce que je me disais qu'il fallait peut-être être aussi poli. » Alors, j'allais pas assez vite pour vous répondre parce que j'écrivais d'autres mots. Voilà, je trouve ça très joli et ça va très bien dans notre sujet du jour. Le cadeau que je vous offre ce matin, eh bien, c'est 4 places pour aller voir La Promesse, le film avec Isabelle Huppert et Reda Kateb. Ma question, qui a produit, je veux le nom du producteur, hein, qui a produit ce dessin animé célèbre, Les Animaniacs, des héros de cartoon complètement loufoques?
Voici l'heure des Animaniacs. On a disjoncté un max. Soyez cool, soyez relax. Sur le rire, pas de taxe. On est les Animaniacs.
Je veux le nom du producteur ultra célèbre qui a produit Les Animaniacs. L'instant M à radiofrance.com. Soyez pas trop polis, dépêchez-vous.
Moi, en tant qu'athlète de haut niveau et en tant que joueuse de tennis en particulier, je suis harcelée depuis des années par les parieurs sportifs en ligne. Et en fait, en août, j'ai fait une contre-performance sur un tournoi où j'étais tête de série 1 et j'ai perdu contre une joueuse que je devais battre. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup de paris sur ce match en ma faveur. Et quand j'ai perdu ce match, j'ai eu une explosion de messages sur Instagram avec des dizaines et des dizaines de messages d'insultes, de menaces de mort.
Vous entendez Alizée Cornet qui a décidé de riposter après toutes ces années, qui a fait des captures d'écran de toute cette merde qui se déverse sur elle après un match raté et qu'il a reposté sur les réseaux sociaux comme pour reprendre le contrôle, Marie Misset, de ce qu'elle subit.
Oui, ça fait partie des témoignages qu'on a récoltés pour cette semaine éditoriale engagée qu'on a lancée avec Combini sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Combini parce qu'on est un petit peu en première ligne sur ce sujet. Et voilà, ça fait partie des différents témoignages qui sont quand même complètement dingues et qui frisent l'absurde parce qu'elle parle de ses matchs perdus. Elle dit, il y a personne d'autre que moi qui met plus de passion dans mes matchs que moi et je reçois des tonnes et des tonnes de menaces de mort, de machin. Donc elle a fini par riposter. Ça fait partie des solutions qu'on peut mettre en place à l'échelle
alors,
individuelle.
Alors, cette semaine spéciale, vous avez voulu alerter la communauté des managers de communauté.
On a voulu alerter tout le monde, en fait. On a voulu...
Mais vous n'y allez pas seul.
On n'y est pas allé seul, parce qu'on s'est rendu compte que, déjà, on n'était pas du tout seul sur le sujet. Et d'ailleurs, donc on a fait cette vidéo pour vous raconter un petit peu avec des community managers de plein de médias. Au début, on s'est dit, on veut s'engager sur le sujet, parce que, voilà, on est un média en ligne, comme je vous l'ai dit, on est à 300 000 commentaires par mois.
Parce que la présidentielle arrive aussi, peut-être, et que c'est un moment particulièrement aigu sur les réseaux sociaux.
Je pense que ça va s'accélérer, et ça va être de plus en plus aigu, mais pour nous, c'est tout le temps.
Ouais.
Et donc on est en première ligne, mais ça concerne absolument tout le monde. Et d'ailleurs, quand on a fait appel aux différents médias pour témoigner là-dessus, on se disait peut-être que ça va les gêner de communiquer là-dessus, peut-être que la modération, c'est un truc d'arrière-cuisine dont on n'a pas envie de parler. Et en fait, très vite, on a eu des réponses positives pour en parler, parce que c'est un sujet de société, c'est un phénomène de société. Et d'ailleurs, dans les commentaires de cette vidéo, t'as plein de gens qui disent « et les services clients, et nous, on en parle », et la SNCF qui vient mettre son community manager qui dit « et moi, et moi, et moi ». Et en fait, c'est absolument
en réalité, Olivier Lafargue, ce sont toutes les marques, mais derrière une marque qui communique sur les réseaux sociaux et qui entre en interaction avec le public, derrière les marques, il y a des gens.
Oui, ouais, tout à fait.
Je rappelle que vous travaillez pour Le Monde.
Exactement. Derrière les marques, il y a des gens et il y a cette espèce de désintermédiation qu'on peut. On a l'impression que parfois les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux se rendent pas compte que c'est la vraie vie. Et toute l'idée aussi, je pense, derrière cette opération, c'est aussi de dire que Internet et les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, et qu'on parle pas des avatars en fait, et que quand on parle dans la vraie vie, quand on va on n'irait pas insulter quelqu'un qu'on croise dans la rue juste parce que on n'est pas content du match de tennis qu'il vient de faire.
Ou de son physique, ou de son orientation sexuelle.
Exactement, ça n'arriverait pas. Pourquoi est-ce qu'on se permettrait de le faire sur les réseaux sociaux?
Comment alors, on va prendre les sujets les uns après les autres. D'abord, vous avez fabriqué, vous, Le Monde, des vidéos sur TikTok, donc pour les très jeunes, pour leur demander si eux aussi, ils avaient déjà participé à du harcèlement en ligne. Évidemment, notre première réponse à tous, c'est non, jamais. Sauf que vous leur posez la question, vous leur demandez vraiment de se regarder dans le miroir, on écoute ce que ça donne.
Tu as déjà commenté des choses pas très sympas sur le physique de gens connus ou pas connus. Tu as déjà partagé une vidéo où quelqu'un est vraiment ridicule parce qu'elle est très marrante, mais ce n'est pas cette personne qui l'avait postée. Tu as déjà participé à une conversation de groupe qui se moque assez régulièrement d'une même personne qui n'est pas forcément dans cette conversation. Tu as fait des montages un peu ridicules de gens, mais sans leur accord, ou bien tu as liké ce genre de montage. Tu as déjà participé à faire exister une rumeur sur quelqu'un. Tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais tu l'as répété quand même.
Ça s'enclenche très vite en réalité, Olivier Lafargue, ce genre de processus.
Ça s'enclenche très vite et ça naît aussi beaucoup d'une forme d'absence de conscience en fait de la réalité des gestes qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on tenait beaucoup à faire cette vidéo de cette façon-là, c'est-à-dire que il s'agit pas de pointer du doigt les gens, de leur dire toi t'es un cyberharceleur, toi t'es un cyberharceleur. On a choisi de se mettre en scène nous-mêmes pour montrer que tout le monde peut être concerné, y compris les gens les plus calés sur le sujet, qui savent normalement très bien ce qu'ils font, parce que parfois ce sont des petits gestes. Et le problème c'est que sur les réseaux sociaux, un petit geste va s'ajouter au petit geste du voisin et ainsi de suite.
C'est-à-dire qu'il y a un petit geste, deux petits gestes et puis 200 petits gestes, 2000 petits gestes, 200 000 petits gestes et bientôt 2 millions de petits gestes. Et là, on détruit quelqu'un.
Et on détruit pas seulement quelqu'un, on détruit la personne qui les reçoit, qui va être une victime de cyberharcèlement et on le sait aujourd'hui, les conséquences peuvent être tragiques, mais on détruit beaucoup plus que ça parce qu'on va détruire toutes les personnes qui s'identifient à cette personne. Moi, je pense qu'il y a pas longtemps, j'ai une amie qui me disait, j'ai vu une vidéo sur la néophobie alimentaire. Son enfant venait d'être diagnostiqué de ça, il a à peine 2 ans. Et elle disait la violence des commentaires, ça m'a tué pour mon enfant, à moi. Et donc ça
blesse. Alors que ce n'était pas son enfant, voilà. À elle qui témoignait. Idem quand on témoigne et quand on parle d'homophobie, quand on parle toutes de grossophobie, quand on parle de misogynie, quand on parle de racisme, quand on parle d'antisémitisme, c'est courageux d'aller témoigner.
Voilà. Et derrière, toutes les personnes qui s'identifient à la personne, elles peuvent être blessées aussi. Et puis après, je pense que c'est un truc général. Je pense qu'on intègre tous une violence qui est quand même hyper banalisée aujourd'hui dans les réseaux. À force de lire, les gens qui sont un peu accros à la lecture de commentaires, bah ça, ils intègrent aussi ça. Mmh. Et puis, je pense que ça vient aussi un peu abîmer le débat public de manière générale.
Alors, quels sont les sujets qui font monter le plus de commentaires? Et est-ce que quand il y a le plus de commentaires, il y a mécaniquement le plus de haine? Olivier Lafargue.
Pas nécessairement le plus de commentaires, c'est pas nécessairement lié à la haine, mais effectivement, il y a certains sujets sont très très bien identifiés depuis très très longtemps pour faire monter le plus de haine. Ce sont toujours des sujets très polarisés, très clivants, qui vont opposer très violemment deux communautés très identifiées et très engagées dans leur
exemple.
Dans leur combat. Exemple, les droits LGBT. Mmh. On sait très bien que quand on fait un post sur ce thème-là sur Facebook, on va le garder à l'œil. Et d'ailleurs, on va le signaler à l'entreprise qui nous aide à modérer sur Facebook, Netino, pour leur dire « Bon ben voilà, on va faire ce post-là, c'est possible que ça dérape, il faut être hyper vigilant. Mmh. » Ça va être Gaza, Israël-Palestine, ça va être tous les sujets sur beaucoup l'identité, les religions, l'islam.
Mais ça peut être sur des sujets beaucoup, qui sont moins polarisants, même un simple physique. Je sais qu'on peut faire attention plus dans les commentaires, nous, quand vis-à-vis du physique de quelqu'un.
Bah alors la vraie question, c'est est-ce qu'on fait attention dans les commentaires ou est-ce qu'on fait attention à ce qu'on poste? C'est-à-dire que comment est-ce qu'on prend soin des gens qu'on met en avant quand on est journaliste, qu'on fabrique des posts, qu'on fabrique des vidéos qui sont parfois très courtes, très très courtes, il faut aller très très vite, ça n'aide pas forcément à être dans la nuance. Comment on prend soin de ces témoins?
Alors déjà, évidemment, on en prend soin et surtout, on se dit pas qu'on va pas les faire parler. Enfin, ce serait terrible. Ça veut dire que tous les sujets qui polarisent, on ne fait plus parler les gens.
Bah, c'est toute la question de l'autocensure.
C'est toute la question de l'autocensure. Et surtout, c'est tout, quand le cyberharcèlement devient quasiment politique, c'est presque une arme politique, le cyberharcèlement. Donc, ça va aller vers l'invisibilisation de communautés entières, de combats et de luttes entières. Donc, ça, c'est pas une option, en fait, de pas les faire parler pour commencer. Et ensuite, on en prend soin en les accompagnant avant, en les accompagnant après. Nous, c'est l'engagement qu'on prend aussi maintenant à Combini. Pas maintenant, mais depuis longtemps, mais là qu'on pose vraiment, de dire, on va vous aider avant, on va vous aider après, vous avez des ressources après, s'il se passe des choses, vous pouvez nous rappeler, on en parle ensemble derrière.
Je vous fais écouter la vidéo de Nora Boisouni, qui s'était plainte, justement, c'est-à-dire qu'elle sait très bien pourquoi elle s'expose, elle écrit un livre, elle veut vendre son livre, elle veut de la notoriété, elle veut du clic, elle a besoin d'exposition médiatique, et elle se plaint de la façon ensuite dont ça a été vécu, c'est-à-dire ça a été une grande violence et dont elle a été accompagnée.
Pourquoi est-ce qu'on bouffe du yaourt quand on est une meuf et pourquoi est-ce qu'on mange de la viande quand on est un mec? Est-ce que c'est parce qu'on est né avec un goût inné pour les produits laitiers quand on est une meuf et un goût inné pour la barbac ou les patates quand on est un mec? La réponse, évidemment, c'est non. Il n'y a pas de goût inné, c'est des constructions culturelles. En fait, on associe les femmes aux légumes, aux produits laitiers, à des choses qui nous paraissent inanimées. Donc il y a vraiment ce mythe des hommes sont actifs et des femmes sont passives. La bouffe en soi, elle est pas sexiste. Un yaourt, c'est pas sexiste. C'est le marketing autour qui va l'être. Et c'est les stéréotypes qu'on lui code qui le sont aussi.
Et ça, Marie Misset, ça déclenche des flots et des flots et des flots d'insultes.
Nora Boisouni, ça fait partie des journalistes qui sont repérés par un certain nombre de gens et de militants. Et elle se fait à chaque fois insulter, peu importe quasi les médias où elle parle. Alors c'est vrai que sur Combini, on a supprimé la vidéo. Et ça fait partie des histoires, celles de Nora, qui nous ont poussées à prendre cet engagement. Parce que elle s'est plainte ensuite sur les réseaux sociaux. Puis nous, on l'a communiqué avec elle aussi. Et on s'est dit qu'effectivement...
C'est-à-dire qu'il fallait supprimer la vidéo parce que ça n'était plus gérable.
Parce que c'était une question de moyens humains à ce moment-là. C'était une question de moyens humains. On l'a supprimé et ça a empêché de faire des captures d'écran, ce qui empêche de porter plainte derrière. Voilà. C'était ça l'objet de sa plainte à Nora. Mais tout le monde est dépassé par ce phénomène. Tout le monde, vous disiez qui la faute tout à l'heure. Je pense qu'on est à un moment, là, de société où personne n'arrive à suivre ce phénomène, que ce soit les plateformes qui font des choses, mais qui ne peuvent pas gérer, que ce soit la police qui n'est pas là derrière, même le système législatif n'est pas derrière les gens qui se font cyberharceler. On est dans un phénomène de société sur lequel on alerte parce qu'effectivement, tout le monde est un petit peu dépassé et tout le monde perd. On prend pas encore la mesure de ce que c'est et de.
Olivier Lafargue, vous qui modérez pour les contenus du Monde sur TikTok et Snapchat, vous constatez le même niveau de haine, d'agressivité, de virulence, de violence sur les différentes plateformes.
Pas forcément le même niveau, effectivement. Moi, j'aurais tendance à repérer sur Facebook et sur Twitter des niveaux de violence largement supérieurs à ce que je peux constater sur mes comptes, sur nos comptes, notamment sur TikTok, dans les commentaires.
Ah bon ? C'est-à-dire que, parce que on imagine l'audience de Facebook beaucoup plus âgée que l'audience que vous gérez, vous, sur TikTok et Snapchat. Donc, ça veut dire que les vieux sont beaucoup plus méchants que les jeunes ?
Possiblement.
C'est vrai?
On n'a pas forcément de chiffres, mais en fait, c'est vrai que c'est un préjugé qu'on peut avoir, mais il n'y a rien qui nous indique que les jeunes seraient plus violents sur les réseaux que les vieux. Et on
et
aurait plutôt
désinhibé.
Tendance à croire à l'inverse.
Oui.
Dans la mesure où ces raids de harcèlement sont souvent ont souvent un objet politique et sont souvent le fait de groupes organisés et qui ont des buts politiques très clairs et déterminés.
Et ça, donc, vous les repérez plus sur Facebook, plus sur Twitter que sur des médias très très jeunes en réalité.
Exactement. Où on a beaucoup plus de spontanéité, de réponses peut-être un peu idiotes ou de réponses un petit peu, en tout cas nous de notre côté sur TikTok, c'est plus le genre de réponse qu'on observe. Quoi.
Oui, c'est ça. Marie Misset, vous aussi, vous identifiez des catégories
et selon
des,
les réseaux.
Ouais.
Pas vraiment selon les réseaux, selon les sujets. Oui, mais selon les sujets, oui, on sait qu'il y a des sujets. Bah, c'est ce que dit Olivier depuis tout à l'heure, mais on sait que les sujets polarisants, quand on fait témoigner, voilà.
Voilà. Alors vous vous engagez à bannir les cyberharceleurs, c'est-à-dire à faire en sorte de les pister et de les éliminer de vos interactions.
On va jusqu'à éjecter des gens de notre communauté si on repère et que effectivement ils sont virulents plusieurs fois de suite. Et puis quand on parle de cyberharcèlement et de haine en ligne, on parle de haine. Enfin, on parle de messages à caractère sexiste, homophobe, de messages qui sont qui tombent sous le coup de la loi. Enfin, on parle de gens en fait qui méritent quand même d'être exclus au bout d'un moment.
Vous avez fait témoigner les community managers sur la et ils racontent comment ça impacte en fait leur morale H24.
Au début, ça avait un impact sur mon moral. Aujourd'hui, je suis un peu plus blindé pour faire face à ça, mais c'est vrai que des gens dans mon équipe, c'est beaucoup plus compliqué pour elles.
Ça affecte notre morale parce que ça reste de la violence.
Non, moi ça m'affecte pas du tout. Je discerne le côté professionnel et le côté perso.
Je le fais de façon assez mécanique. Et je sais pas si c'est une bonne chose ou pas d'ailleurs.
Malheureusement, on s'y habitue.
On finit par se construire une sorte de petite carapace.
Oh, encore une fois, ça recommence.
Si c'est trop dégueulasse, si c'est trop violent, etc. Soit on se les envoie entre nous.
Parce qu'évidemment, pouvoir en rigoler parfois aussi, c'est ce qui nous permet de prendre du recul et de rester dans la vraie vie, quoi.
Bien sûr, il y a de l'empathie, mais il faut de l'empathie. Ces gens qui écrivent, c'est des vraies personnes. Parfois, ça m'embête. Parfois, j'y pense un peu le soir, le week-end. Après, une fois qu'on ferme Messenger, Twitter, tout ça, ça n'existe plus.
Olivier Lafargue.
ouais, non, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses parfois et de se prendre ça dans la tête et d'essayer de se dire ça c'est le boulot et puis après de rentrer chez soi et de couper avec tout ça. Parce que c'est toujours des attaques qui sont faites pour faire mal, quelle que soit la cible en fait. Et c'est toujours des attaques ad hominem, c'est toujours essayer de trouver le coin pour pouvoir taper le plus dur et faire taire les gens au final.
Marie Misset, vous vous dites on veut protéger nos équipes, on veut protéger nos témoins, mais on veut aussi protéger nos équipes.
On veut aussi protéger nos équipes, évidemment. On est en train d'essayer de mettre en place ça pour pouvoir justement les protéger, les accompagner quand ça va pas trop, etc. Mais après, Benoît Lebrault, que vous venez d'entendre, qui est notre head of social, comme on dit à Combini, voilà, il dit aussi qu'il s'est blindé au fur et à mesure.
C'est
mais
ça.
On parle d'une violence qui est intégrée au fur et à mesure aussi, je pense.
Alors, vous proposez, ça sera le mot de la fin, vous proposez un kit. Parce que, il faut savoir que l'usage des réseaux sociaux, c'est de plus en plus jeune. Et vous le voyez, Olivier Lafargue, j'imagine, sur TikTok et sur Snapchat. Vous voyez des gamins de 8, 9, 10 ans, j'imagine, qui arrivent.
Possiblement. Après, on le sait pas trop parce que normalement, ils ont pas le droit de s'inscrire.
Non.
Mais on sait très bien que les gens mettent de fausses dates de naissance. Et ça fait partie. C'est une part de notre engagement en fait de d'être sur ces plateformes-là, de faire une part d'éducation aux médias au sens large
de la
et notamment sur de la pédagogie sur ces questions-là qui sont très importantes.
C'est ça. Et Marie Misset, vous proposez un kit pour les parents qui sont mais complètement désarmés face à ça.
Et d'ailleurs, on a un article d'un homme belge qui travaille sur la question du cyberharcèlement et qui donne un conseil qui, moi, m'a paru super intéressant, peut-être un peu en forçage de porte ouverte, mais qui dit, en fait, il ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux auprès de vos enfants. C'est ça qui fait naître, entre autres, le silence de vos enfants quand ils sont cyberharcelés. Il n'y a que 7% des enfants qui témoignent de leur cyberharcèlement quand ça leur arrive. Il ne faut pas les diaboliser, il faut leur dire ça existe et on peut t'aider et s'il se passe quelque chose, on sera là.
Merci beaucoup à tous les deux. On avait Le Monde et Combini, mais vous êtes beaucoup plus nombreux de médias à vous être rassemblés pour alerter sur cette question. Bravo à Pierre-Étienne qui a reconnu les Animaniacs et leur producteur Steven Spielberg, carrément. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia De Villers, et en ce vendredi consacré aux loisirs, quelques destinations pour le week-end ou pour les vacances d'hiver qui débutent pour la zone B. Vous pouvez nous appeler pour défendre votre région au 01 45 24 7000 ou en nous laissant une note vocale sur l'appli France Inter.